aujourd'hui c'est la fête de la science à Paris et vous voulez nous parler d'une tempête qui agite le monde de la psychologie académique.
Oui, alors d'abord il y a un élément de cadrage général. Dans un livre récemment publié aux éditions du Seuil et intitulé « Malscience, de la fraude dans les labos », le journaliste Nicolas Chevassieux, lui, met au jour une pratique de plus en plus répandue dans le monde scientifique qui est la falsification des données. Le phénomène n'est pas récent, mais depuis une vingtaine d'années, le phénomène augmente donc et touche les revues scientifiques les plus prestigieuses. Alors bien sûr, cette falsification ressortit plus souvent du petit arrangement avec les données que de l'invention pure et simple. Bien sûr, toutes les disciplines ne sont pas concernées au même titre, mais cela illustre selon lui, et il n'est pas le seul à le penser, un travers de la recherche scientifique contemporaine où l'on est incité à publier vite pour occuper le terrain, où le premier à publier emporte tous les bénéfices et où le résultat quantitatif est privilégié à la rigueur de la méthode. Alors cela n'empêche pas les découvertes, mais ça les ralentit parfois et surtout ça peut avoir pour conséquence de détourner les chercheurs les plus scrupuleux. La question déprimante qu'on se pose en refermant le livre est la suivante. À part révolutionner l'écosystème de la recherche scientifique, que peut-on faire? Et c'est là qu'on apprend l'existence d'un algorithme fabriqué par deux doctorants de l'université de Tilburg, aux Pays-Bas, et qui répond au joli nom de StatCheck. À l'origine, ce petit programme a été écrit pour corriger les erreurs d'arrondi dans les statistiques qui sont souvent utilisées par les articles en psychologie. Et sans doute, le fait qu'une célèbre histoire d'arnaque à la donnée ait touché en 2011 le département de psychologie sociale de l'université de Tilburg n'est pas étranger à cette initiative, c'est une hypothèse. Bon, quoi qu'il en soit, une fois écrit, le petit programme a passé en revue 50 000 articles en psychologie donc, et ce qu'il a trouvé est assez inquiétant. Près de la moitié des papiers révisés par le robot contient au moins une erreur. Le plus étonnant, la plupart des erreurs ne sont pas le fruit du hasard, puisque elles viennent, miraculeusement, conforter le résultat annoncé par le papier. Et même 13% des papiers contiennent une erreur qui aurait pu en changer la conclusion. Et les deux doctorants, comment ?
Très bien.
Ah, vous trouvez ça super, vous ?
Bah écoutez, c'est immoral, mais bon, en tout cas, on l'a trouvé. Les erreurs ont été débusquées.
Oui. Bon, mais le problème, c'est que les deux doctorants ont décidé de publier leurs résultats sur un forum scientifique très populaire dans la recherche, du nom de PubPeer, en commentant sous les papiers. C'est là que le foutoir a commencé. Parce que si certains chercheurs en psychologie ont vu dans cette démarche un moyen de corriger et améliorer leurs travaux, d'autres ont réagi assez violemment. Suzanne Fiske, par exemple, qui est chercheuse en psychologie à Princeton et ancienne directrice de l'Association pour la science psychologique et qui est une papesse de la discipline, elle est particulièrement remontée. Elle a parlé de terrorisme méthodologique. Bon. Ses reproches portent principalement sur la méthode. Le fait que tout cela se joue dans un forum, sur des réseaux sociaux académiques, dans des lieux où les mécanismes traditionnels de la publication scientifique sont court-circuités pour une conversation à bâton rompu, directe, moins polissée, plus personnelle. Et de fait, manifestement, c'est dans ces espaces, mais aussi par blog interposé que les chercheurs en psychologie du monde entier sont en train aujourd'hui même de s'écharper, donc depuis quelques semaines que cela dure. Il me semble qu'il y a plusieurs leçons à cette histoire. D'abord, la vérification est toujours un procédé traumatisant. Et bien souvent, je cauchemarde à imaginer le jour où un robot analysera en temps réel la rigueur et l'exactitude de nos propos, des miens en particulier. Ça risque d'être assez désagréable.
Pas du tout.
Deuxièmement, vous qui me remettez en question chaque matin en disant que ce dont je parle n'existe pas. Vous ne croyez pas à la domination financière. Deuxième leçon.
La domination financière qui n'est pas celle de Guy Sormand, mais celle que vous évoquiez hier, qui est une pratique sadomasochiste, je le rappelle quand même.
Deuxièmement, Internet pose à la recherche scientifique les problèmes qu'il pose ailleurs, c'est-à-dire que d'un côté, il permet d'automatiser une procédure à grande échelle, ici la vérification par l'algorithme, mais de l'autre, il perturbe aussi les hiérarchies traditionnelles et expose des affects dans de nouveaux espaces de discussion, pour le meilleur et pour le pire. Mais si on en revient, troisièmement, à la base, à cet algorithme qui parcourt les articles en détectant les erreurs, on ne peut que se réjouir qu'il existe. Car au final, il fait ressortir un problème systémique, celui que dénonce Chevassieux-Louis dans son livre. Et il en va non seulement du crédit qu'on peut accorder à la science, mais de notre propre représentation du monde. Et dans ce cas-là, la susceptibilité des scientifiques est peu cher payée eu égard à la hauteur de ses buts.
Merci beaucoup Xavier Delaporte. Guy Sormand, une réaction.
Oui, ma réaction c'est que la science n'est pas nécessairement scientifique. C'est-à-dire que la science est un terrain de lutte. Mais elle progresse précisément par le combat et la confrontation permanente. Enfin, on revient, vous citiez tout à l'heure Karl Popper, ce qui est vrai, c'est ce qui peut être démontré faux. Et vous en apportez une preuve supplémentaire. Ce qui est vrai peut être démontré faux. Donc, vous apportez des éléments supplémentaires à ce qui est la démarche même de la science, qui est de démolir l'hypothèse qui vous précède. Et c'est ainsi qu'elle progresse quand même.